éminence n'ose pas représenter, car l'abondance de peuple cet après-midi montre l'intérêt de votre expérience au service de l'Église, dans le rouge qui est le sang à verser pour la Sainte Église, dans votre mission que vous avez eue à la signature apostolique et comme curé de Saint-Eugène et canoniste, que j'apprécie, et ce même combat spirituel dans votre protection pour l'ordre de Malte, qui est providentiel aussi dans la souffrance actuellement de tous ceux que l'ordre de Malte assiste depuis tant de siècles. Mais surtout, je m'arrêterai maintenant pour vous laisser cette parole de l'Église, de ce Sénat du Souverain Pontife et de cette aide profonde que vous apportez.
Merci beaucoup. Mes seigneurs, mes grands pères, mes grandes sœurs, mes estimés frères et sœurs dans le Christ, je suis très heureux d'être en mesure de vous présenter personnellement le livre qui est le fruit de plusieurs entretiens que j'ai donné à M. Guillaume d'Alençon, délégué épiscopal pour la famille et la vie du diocèse de Bayonne. Tout d'abord, je remercie son éminence le cardinal André Ventois, archevêque de Paris, et le curé de la paroisse Saint-Eugène et Saint-Cécile pour leur accueil chaleureux et pour tout ce qu'ils ont fait pour organiser au mieux ma visite en France. Je tiens également à exprimer ma profonde estime et gratitude à Guillaume d'Alençon pour m'avoir encouragé à donner des interviews dans le but de publier un livre qui rendrait témoignage de l'action de la grâce de Dieu dans ma vie en tant que fidèle, prêtre, évêque et enfin cardinal. En raison de ma vocation sacerdotale et épiscopale, il espérait aussi que le livre serait un instrument au service de la charité pastorale, qui est la grâce distinctive de la prêtrise et de l'épiscopat, offrant des conseils judicieux et des encouragements concernant certaines des préoccupations les plus urgentes des chrétiens de notre temps. Pour son travail précis et infatigable, il m'a aidé à atteindre les nobles buts qu'il s'y proposait. J'espère que le livre de mes entretiens avec Guillaume d'Alençon rendra gloire à Dieu et servira à le bien spirituel de mes frères et sœurs dans le cœur mystique du Christ, le Fils unique de Dieu. Pour moi, cela fut une source de croissance tout particulière dans la grâce, de l'humilité de mon Dieu, et une source de confiance en sa providence qui est toujours la mort parfaite pour nous. Ayant achevé 40 ans de vie sacerdotale et de ministère le 29 de juin de cette année, les entretiens avec Guillaume d'Alençon m'ont fourni l'occasion d'examiner plus attentivement le grand don de ma vie et de ma vocation, et de réfléchir à ce que notre Seigneur peut encore me demander comme à son fidèle serviteur. Dans le même temps, je tiens à exprimer la plus profonde gratitude aux éditions Artege et en particulier à M. Luc Mérion, M. Bruno Nougared et M. Jean-Philippe Bertrand pour la belle édition de l'ouvrage qu'ils ont produit. Je les remercie aussi avec Guillaume d'Alençon ensemble, pour l'ensemble de notre travail, visons à organiser ma visite en France à l'occasion de la publication du livre. La première partie des entretiens raconte l'histoire de mon enfance, de le développement à la maison et dans ma paroisse et mon école catholique, de ma vocation à la prêtrise, de mon expérience de la formation des séminaristes, de mon ordination à la prêtrise et à l'épiscopat, et des différentes missions confiées à mes soins dans l'Église. Le livre fut pour moi l'heureuse occasion de me rappeler combien Dieu m'avait béni à travers mes parents, les curés et les religieuses qui enseignaient dans les écoles catholiques que j'ai fréquentées. Il m'a eu de manière particulière de rendre hommage à mes parents et à ma famille, que mon tramis transmis fidèlement la foi et sa pratique comme elles leur avaient été transmises par leurs parents et grands-parents qui ont émigré aux États-Unis à partir de l'Europe et en particulier d'Irlande. Ma formation au séminaire a commencé durant ce qui semblait être un temps très tranquille pour l'Église. Le petit séminaire diocésain que j'ai fréquenté débordait de séminaristes quand je suis entré à l'automne de 1962. À l'heure que je poursuivais mes études au séminaire, ce dernier subissait d'une manière particulièrement dévastatrice la crise que l'Église a connue au cours des premières années de la mise en œuvre des enseignements du Concile œcuménique de Vatican II. Ayant vécu cette période tumultueuse, symboliquement marquée par les émeutes étudiantes de 1968 à Paris, j'exprime ma propre compréhension de ce qui arrivait et de ses effets les plus difficiles sur tous les aspects de la vie ecclésiale et surtout sur la Sainte Liturgie. Cela m'a amené à m'interroger sur ce qui était sous-jacent à la tranquillité de mes premières années au séminaire et à conduire à la remise en cause incessante et soupçonneuse de la doctrine et de la liturgie de l'Église. À cet égard, je trouvais particulièrement lumineuse l'analyse de la crise post-conciliaire donnée par le pape Benoît XVI dans son discours de Noël au Collège des Cardinaux et à la Curie romaine en 2005. En distinguant adéquatement l'enseignement du Concile œcuménique Vatican II et le soi-disant esprit du Concile, le pape Benoît XVI illustre comme le Concile ne peut être interprété correctement que au moyen d'une herméneutique de la réforme dans la continuité et non pas au moyen d'une herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Ayant vécu la période au cours de laquelle de nombreuses richesses de notre vie dans la crise au sein de l'Église, qui s'était développée au long des siècles chrétiens et qui avait été si importante pour ma famille et pour moi, furent brusquement et parfois violemment remises en question, ridiculisées, répudiées et mises de côté, j'ai pu voir comment la véritable réforme souhaitée par les pères du Concile fut souvent trahie. Elle va maintenant être étudiée de nouveau et mise en œuvre en accord avec l'enseignement et la pratique de l'Église Seigneur depuis les apôtres. J'ai la grâce de connaître directement la plupart de ces richesses de la vie de l'Église et par conséquent, je comprends l'ardent désir de nombreux jeunes d'aujourd'hui qui ne les connaissent que par leurs études sur le sujet ou leur conversation avec l'ancienne génération, de s'attacher si fortement à l'usus antiquum, à ce que nous appelons maintenant liturgiquement la forme extraordinaire du rite romain. Il y a un désir semblable de retrouver ce qui était indûment et injustement abandonné dans la catéchèse, les écoles et les universités catholiques, la formation au séminaire et la formation de l'écriture consacrée et ainsi de suite. Je ne parle pas d'un exercice de nostalgie, mais d'une reprise de ce qui était et continue d'être la beauté incomparable et durable de l'enseignement, du culte, de la prière de l'Église et de la vie des vertus à travers les siècles, surtout en période de grande épreuve et même de persécution et martyrs. Le deuxième parti des entretiens reprend certaines des questions graves auxquelles l'Église est confrontée à notre époque. Les questions posées par Guillaume d'Alençon cherchent à comprendre la caractéristique distincte de l'expérience d'un prêtre évêque des États-Unis d'Amérique par rapport à l'expérience de l'Église en Europe. Je suis heureux d'être en mesure d'examiner par le biais de ces questions, les fondements philosophiques profonds de tant de réponses hostiles à l'Église et à sa mission à notre époque, et aussi la meilleure manière possible pour un évêque diocésain de faire preuve de charité pastorale dans une culture qui s'est radicalement sécularisée. Par la providence divine, j'ai eu la grâce de connaître et de pouvoir répondre à la situation de l'Église de notre temps, à la fois par l'expérience de près de 14 ans comme évêque diocésain, et aussi comme membre de la Curie romaine au service de l'Église universelle. Nonobstant les difficultés, les graves défauts de la vie de l'Église dus à notre péché, ce qui est clair pour moi, c'est la présence indéfectible du Christ au milieu de nous, comme il l'a promis avant de montrer à la droite de Dieu le Père à l'Ascension. À cet égard, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus a été d'une aide constante pour moi, et cela depuis mon enfance. En contemplant l'image du Sacré-Cœur de Jésus, je me rappelle la façon dont notre Seigneur ne cesse de déverser en abondance sur ses frères et sur fidèles la grâce de l'Esprit-Saint. J'ai réfléchi souvent à un merveilleux enseignement de Saint Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique à l'issue du Grand Jubilé de l'an 2000. Le Saint Pontife demande quel devrait être le plan au programme pastoral de l'Église à notre époque. Il considère la tendance d'homme contemporain à chercher toujours une formule magique ou une nouvelle formule. Il nous assure cependant que le plan pastoral de l'Église aujourd'hui est identique c'est Jésus-Christ qui est vivant pour nous dans la tradition vivante de son corps mystique. Si, d'une certaine manière, mon petit livre que Guillaume d'Alençon m'a aidé à écrire permet aux lecteurs de voir plus clairement la présence de notre Seigneur dans sa Sainte Église et par-dessus tout dans la présence réelle de la Sainte Eucharistie, j'en rends grâce à Dieu. La troisième partie de cet ouvrage parle du renouveau spirituel, de la nouvelle évangélisation, qui est la réponse appropriée à la crise de l'époque actuelle, comme le vénéreux pape Paul VI et le pape Saint-Pape Jean-Paul II nous l'ont rappelé si souvent et avec force. Tout d'abord, le renouveau spirituel passera par la voie d'une loue renouvelée pour la Sainte Liturgie, comme source et plus haute expression de notre vie dans le Christ. Et d'une façon particulière, par l'enrichissement mutuel souhaité qui est encouragé pour la célébration de la Sainte Messe et l'administration des autres sacrements, à la fois selon la forme ordinaire ou forme de la réforme post-conciliaire et selon la forme extraordinaire ou forme en usage durant la période préconciliaire. Il est vrai que la nouvelle évangélisation prend place d'abord à la maison, dans la famille, dans laquelle la foi est d'abord enseignée, où la prière est d'abord connue et dans laquelle la vie des vertus est communiquée. Mais la famille, qui est une église domestique, tire sa foi et sa vie de la Sainte Liturgie. S'il est important de garder à l'esprit cette que l'utilisation de la forme extraordinaire ne contredit pas l'utilisation de la forme ordinaire. La forme extraordinaire n'est pas préconciliaire dans le sens d'une discipline liturgique qui n'a rien à voir avec les réformes prescrites par le bienheureux pape Paul VI après le Concile œcuménique Vatican II. Ma propre expérience dans l'offrande du Saint-Sacrifice de la Messe et l'administration des autres sacrements, selon les deux formes, ordinaire et extraordinaire, du rite romain, m'a amené à voir plus clairement la sagesse de la loi liturgique promulguée pour le pape Benoît XVI. Ces entretiens m'ont conduit à réfléchir sur la contribution particulière de l'Église en Afrique et en Asie pour la réforme de la vie ecclésiale. Sur la base de mon expérience, acquise durant l'Assemblée du Synode des évêques au mois d'octobre dernier, j'ai pu attester combien la loi de l'Église universelle est importante pour répondre aux besoins profonds de réforme. Souvent, mes frères d'Afrique et d'Asie parlent du grand don des missionnaires venus d'Europe et même d'Amérique pour leur apporter la foi et sa pratique. Dans un certain sens, cela rejoint ma propre expérience, puisque la vie dans l'Église est venue à moi par mes parents qui avaient eux-mêmes reçu la vie de la grâce que leurs ancêtres européens leur avaient transmise. En donnant mes entretiens, j'espérais que les Européens qui les liraient serai conduit à considérer de nouveau le plus grand don que l'Europe a donné au monde, la vie du Christ vivant pour nous dans l'Église. La quatrième partie est consacrée à l'Évangile de la vie. En tant que prêtre, ordonné quelques années après la désastreuse décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser l'avortement sur demande, c'est-à-dire en pratique, à partir du moment de la conception jusqu'au moment de la naissance, j'ai compris combien l'Évangile de la vie devait être au cœur de tout ce que j'enseigne et pratique. Il a été particulièrement important pour moi, en tant que pasteur d'âme, de donner un puissant encouragement et la primauté à l'apostolat du respect de l'inviolabilité de la vie humaine innocente et sans défense. À partir du moment de la conception jusqu'à la mort naturelle. Si souvent j'ai été profondément édifié par l'engagement indéfectible du laïcat catholique qui s'est mis à défendre les vérités les plus fondamentales de la loi morale naturelle et de notre foi catholique. Il n'y a qu'une situation plus mauvaise dans la société d'aujourd'hui que la destruction massive de vies innocentes et sans défense dans le ventre de leur mère. Dans la bataille pour rétablir le respect de la vie humaine, l'abandon de la pratique de l'avortement provoqué doit avoir la première place. Quand les enfants et les jeunes ont grandi dans une maison vraiment chrétienne, alors naturellement, ils deviennent des courageux apôtres de la vie. Tant que choses dépendent de la maison, de la relation entre le mari et la femme et des parents avec leurs enfants, tant de choses dépendent également de l'éducation que les enfants reçoivent à l'extérieur de la maison. En tant que pasteur d'âme, j'ai exhorté les parents à être attentifs à ce que la vie chrétienne qu'ils inculquent à leurs enfants à la maison ne soit pas érodée et même corrompue par ce qui est enseigné et vécu dans les écoles que leurs enfants fréquentent. La cinquième partie du livre traite ce qui est peut-être la question la plus critique à l'heure actuelle dans l'Église, le mariage et la famille. Les assemblées du synode des évêques en octobre de l'année dernière et en octobre prochain on était convoqués pour sauvegarder et promouvoir la splendeur de la vérité sur le mariage que Dieu avait créé dès le commencement et que notre Seigneur a rétabli en sa beauté originelle. Il ne fait aucun doute que le mariage, qui a été l'objet d'attaques depuis des décennies dans la culture laïque, est soumis à une attaque plus féroce encore à notre époque et même parfois au sein de l'Église. Au même titre que l'assaut sur le mariage, toute la question de notre identité en tant qu'homme et en tant que femme, de la signification de la sexualité humaine comme la voie de l'amour chaste entre un homme et une femme qui a sa couronne dans la propre formation et l'éducation des enfants est remise en question. Le mariage et son fruit, la famille, sont la première cellule de la vie de l'Église et de la société en général. Pour cette raison, il est essentiel que la vérité du Christ sur le mariage et la famille soit pensée et enseignée avec un nouvel enthousiasme et une nouvelle détermination. Aujourd'hui, il est souvent dit que l'Église doit s'adapter à la culture contemporaine, changer aussi sa langue pour ne pas offenser la culture. Il est de mon expérience que ce que les personnes honnêtes attendent le plus de l'Église est l'enseignement de la vérité du Christ. Un tel enseignement requiert que l'Église utilise un langage qui respecte l'ordre objectif avec lequel Dieu nous a créés et a créé notre monde. Il est absurde de dire que le droit naturel ne signifie plus rien dans notre culture. Dieu a écrit sa loi dans chaque cœur humain et les Saintes Écritures ont enseigné la même loi. Il n'y a pas de contradiction entre la raison et la foi. Quand la vérité est proclamée par l'Église, les personnes honnêtes sont attirés par elle, parce qu'elle parle de ce qui est le plus profond dans leur cœur. D'une certaine façon, aujourd'hui, nous semblons d'avoir perdu notre confiance en la loi naturelle et en ce que l'Église a toujours enseigné et pratiqué au sujet de la vie humaine et de son berceau, la famille. Une nouvelle évangélisation, qui est la seule façon dont l'Église peut vraiment servir le monde, comme elle est appelée à le faire, exige avant tout de parler de la vérité du Christ sur le mariage et la famille avec la clarté et la compassion avec laquelle il a annoncé cette vérité dans l'Évangile. La dernière partie des entretiens est un résumé d'ensemble de leur contenu. Il d'abord la question de ce que signifie restaurer toutes choses dans le Christ, selon les mots de Saint Paul, que le pape Saint Pie X a choisi comme principe directeur de son service épiscopal et papal de l'Église. De manière particulière, il aborde le sens de la royauté du Christ sur l'univers. Malheureusement, aujourd'hui, le terme de roi est souvent interprété de manière idéologique et par conséquent mal compris. Pour être un roi, comme le pape Saint Jean-Paul II l'a enseigné d'une façon merveilleuse dans sa première encyclique Redemptor Hominis, il faut pratiquer toutes les vertus que nous permettent de rendre gloire à Dieu et de servir nos frères et sœurs avec une intention pure et désintéressée. Selon la sagesse que nous fut enseignée dans notre enfance, servir, c'est régner. Régner. En France, vous avez dans la sainteté héroïque de Saint-Louis-IX un modèle particulièrement lumineux de ce que signifie être un roi. Il a été pour moi une inspiration particulière dans ma réflexion sur la relation entre l'ordre surnaturel et l'ordre temporel. Dans la dernière partie des entretiens, je voulais souligner tout spécialement le service irremplaçable rendu par les fidèles laïcs dans la sanctification de l'ordre temporel. Aujourd'hui, parce qu'il y a tant de corruption dans le monde des affaires et le gouvernement, et même dans l'éducation et la santé, les fidèles catholiques sont tentés de rester éloignés de ces chambres essentielles de l'activité humaine. Pourtant, leur état de vie les appelle précisément à évangéliser ces domaines d'activité en vue du bien commun, du bien de tous leurs frères et sœurs. À cet égard, j'ai réfléchi sur le fait que j'ai moi-même, en tant que pasteur de l'Église, la grave responsabilité de communiquer l'enseignement moral qui guidera inévitablement les fidèles dans leurs engagements au sein de l'ordre temporel. De sorte qu'un tel engagement ne soit pas l'occasion de compromettre leur foi, mais plutôt l'occasion de croître dans la foi et dans sa mise en pratique. À cette fin, le culte, la vie de prière et la dévotion sont essentiels. L'exemple de Saint-Louis est limpide. Ses journées, consumées par de nombreux soucis temporels, étaient ancrées et centrées sur la sainte liturgie et la vie de prière qui découlait de sa communion avec le Christ dans la sainte liturgie. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont rendu possible l'écriture et la publication du texte de mes entretiens avec Guillaume d'Alençon. C'est mon espoir et mon vœu que la publication d'un cardinal au cœur de l'Église fasse avancer dans une petite mesure la nouvelle évangélisation, le chemin de l'Église dans tous les temps et en particulier à notre époque. Je termine en répétant les mots avec lesquels j'ai conclu les entretiens. Mon espérance est que l'Église soit de plus en plus fidèle à son identité d'épouse du Christ dans son enseignement, dans son culte, dans sa prière et sa dévotion, et dans sa vie morale. Mon espérance est que chaque sermon de la vigne, que chaque membre du corps du Christ devienne de plus en plus proche du Christ, qu'il le connaisse, qu'il l'aime et le serve, et que de ce fait, la gloire du Christ illumine notre monde dans l'attente de sa venue dernière, où il restituera toute la création au Père, inaugurant ainsi des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Dieu veut que cette espérance soit communiquée à tous les lecteurs du livre. Je vous remercie. pour votre aimable attention et votre patience à l'égard de ma prononciation de votre belle langue. Que Dieu vous bénisse toujours ainsi que vous et vos foyers.
Service aux plus sacrées réalités
été et dans le cadre du procès pour la déclaration d'amnité et dans le cadre de la non-admission au sacrement de personnes dans les unions irrégulières, la discipline sauvegarde la vérité que le mariage est indissoluble. Alors, cette petite réflexion, malheureusement, je ne suis pas au seul moment préparé de commenter plus.
Je vais vous demander de vous lever pour recevoir la bénédiction. Je vais donner des bénédictions.
Thank you.